2022, Michel Baudet. Bonjour, nous nous retrouvons après un petit arrêt de l'été. Enfin, je ne sais pas si vous vous êtes arrêté pendant l'été, mais enfin, moi, je me suis un peu arrêté aussi. Voilà, et alors je vous propose maintenant de partir pour une nouvelle randonnée, médiévale évidemment, occitane évidemment, en compagnie de Raymond VII, d'amener jusqu'à quelques temps. Et je ne sais pas pourquoi, enfin je ne sais pas trop pourquoi, ou cette randonnée, ça va être d'essayer de découvrir un peu les femmes autant. Bon, les femmes sont à l'honneur, la violence conjugale court sur les journaux. Est-ce que c'était mieux autrefois qu'aujourd'hui? On n'en sait rien. La montée de, enfin, des tas de problèmes autour des femmes aujourd'hui. Et c'est pas mauvais de se dire, tiens, comment ça se passait autour de Raymond VII? Quelles sont les femmes qu'il a rencontrées? Comment il a été, disons, influencé par les femmes qui étaient autour de lui, celles qu'il a rencontrées? Voilà. Et alors, donc, aujourd'hui, nous allons le faire avec, de façon un peu particulière. Enfin, j'essaie toujours que ça soit intéressant, bien sûr. Et n'hésitez surtout pas à me triturer si vous en avez envie, critiquer, envoyer vos questions, vos critiques à CFM. On se fera un plaisir d'y donner écho. Et si quelqu'un parmi vous voulait parler des femmes occitanes au XIIIe siècle, aucune hésitation, vous avez le micro à votre disposition. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème va être un peu particulier. Enfin, à l'intérieur de ce thème général des femmes, je vais vous parler d'une femme absolument sensationnelle, hyper connue de tout le monde, sauf peut-être des gens du Cameroun, comme il y en a certains qui m'écoutent en se disant qu'est-ce que c'est cette histoire. Je vais vous parler de Mélusine. Mélusine, bon, tout le monde la connaît, c'est un grand mythe. C'est présent dans la culture française, c'est présent dans les cultures, disons, d'autrefois. C'est un des très très vieux mythes de l'humanité. Un moyen, le mythe, vous le savez, c'est un moyen qu'on se donne pour réfléchir autrement qu'avec des professeurs, etc. Surtout autrefois, jusqu'au Moyen-Âge, on n'avait pas les universités encore organisées comme aujourd'hui. Et c'est surtout à travers des histoires, des contes, des chants, des légendes, etc., qu'on réfléchissait, qu'on partageait. Et donc, ces légendes, dans ces mythes, comme Cendrillon, la Belle au bois dormant, tous ces Blanche-Neige, etc., qu'on a pris quand on était tout petit, qu'on n'a pas réfléchi, mais auxquels on s'est habitué, puis petit à petit, ça nous a formaté l'esprit sans qu'on s'en rende bien compte, et quelquefois c'est difficile d'oublier. Mais enfin voilà, donc au Moyen-Âge, il y avait donc des mythes comme ça pour essayer de réfléchir qu'est-ce que c'est qu'un des problèmes majeurs hier comme aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est que la femme, quelle est la différence avec l'homme, si on peut dire, et quels sont les rapports homme-femme. Ça pose des problèmes particuliers. Qui a le pouvoir? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est d'avenir? Voilà, est-ce qu'il faut faire obéir les femmes aux hommes ou les mettre à égalité, les laisser se disputer, se taper dessus, enfin, etc. Bref, toute cette question qui est fondamentale, à la fois pour chacun d'entre nous, puisque l'amour est, disons, la rencontre avec la femme quand on est un homme ou la rencontre avec l'homme quand on est une femme, bien sûr, c'est quand même un élément important de notre existence. Ça nous fait bouger, ça nous fait voyager, ça nous fait changer des programmes, ça nous fait changer nos idées, des menus, etc. On va à un resto qu'on n'aimait pas, mais parce que c'est pour faire plaisir à celui ou à celle avec qui on est, quoi, etc. Et donc, ces rapports homme-femme, donc très importants. Et pour réfléchir à ça, pour en parler, pour éduquer beaucoup les jeunes à se préparer, quand ils seront adultes, à cette rencontre homme-femme, donc on utilisait des contes de fées, des mythes, Et celui de Mélusine est un des mythes les plus importants que l'on ait dans le milieu européen, occidental. Mais autant que je puisse me rendre compte, il existe aussi tout le long du Moyen-Orient jusqu'à l'Asie. Moi, par exemple, au Japon, le site de Mélusine existe pour expliquer la naissance du pays, des îles japonaises. Oui, c'est quelque chose qui est très, très ancien. D'ailleurs, le plus ancien récit que l'on a écrit, qui est écrit sur Mélusine, et ça va vous étonner, mais c'est un texte qui a été écrit en 700 avant Jésus-Christ, donc ça fait quand même assez vieux, oui, assez vieux, et au Japon, en japonais. Oui, c'est pas parce que j'ai été au Japon que je dis ça, mais simplement pour dire que c'est vraiment un vieux mythe de l'humanité, et de l'humanité pas seulement sur l'Occitanie. Hein, c'est drôlement plus vaste que ça. Et ça vaut la peine de se poser la question. Et quelle est la particularité du mythe de Mélusine? Si vous voulez, c'est qu'un homme et une femme s'aiment, ça c'est commun, c'est rien de... Bon, ils se marient parce qu'ils veulent vivre ensemble, enfin ils se marient, ils vivent ensemble, et c'est le bonheur, ils ont des enfants, tout marche bien, etc. Mais il se trouve que dans le rapport homme-femme, il y a une sorte de convention, un pacte, dans le mythe de Mélusine, c'est ça, où la femme lui dit... Il y a un territoire de mon existence, de mon corps, de mon cœur, de ma tête, de ma façon de vivre, enfin peu importe, ça dépend des pays, etc. Mais qui est mon secret à moi, et tu ne le perces, tu me promets de ne pas chercher à le percer. Tu ne cherches pas à aller plus loin, on est heureux ensemble, ça va. Mais laisse-moi un espace de liberté, laisse-moi mon plaisir à moi d'être femme à ma façon. Quand on est amoureux, évidemment, les hommes disent « Ouais, 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 bien sûr, aucun problème, je te promets ça, tu fais ce que tu veux, enfin, etc., etc. » Et dans le mythe de Mélusine, il se trouve que l'homme, au bout d'un quelque temps, à force d'être heureux avec sa femme, avec la femme Mélusine, pour diverses raisons, se dit « Il y a quand même ce secret, là, ça m'énerve, je suis quand même pas, c'est moi le maître, c'est moi le patron, c'est moi qui suis propriétaire de tout, donc je suis quand même, je devrais être propriétaire de tout ce qui touche à ma femme, de tout ce qui touche à Mélusine. » Et un jour, dans le récit que je vais utiliser, parce qu'on est en Occitanie, mais c'est différent en Inde, au Moyen-Orient, etc. Mais dans le récit donc, qu'on va utiliser en Occitanie, le secret que Mélusine a demandé de garder, c'est qu'une fois par semaine, le samedi, elle sera dans ses appartements, une tour d'un château, bien sûr, et il ne viendra pas chercher à l'embêter, à savoir ce qu'elle fait. Et évidemment, un beau jour, il ne peut pas tenir, il va jusqu'à la tour en question et il fait un trou dans la porte pour jeter un coup d'œil, ça, et il découvre qui est Mélusine. Et elle disparaît automatiquement, puisque le mythe, c'est ça, c'est que lorsque l'homme découvre le secret de sa femme, elle n'est plus sa femme.
Blushing early day, you had me howling. cold days warm into your skin, and the night you lit me under your sun. You had me howling, you had me howling.
De parler du mythe de Mélusine dans notre marche à la rencontre des femmes occitanes. Et donc, je disais que le propre, le schéma du mythe de Mélusine que l'on retrouve un peu partout, c'est qu'il y a dans l'entente, dans le rapport homme-femme, une entente pour garder un secret que la femme veut garder, qui est le sien, et que l'homme n'a pas le droit, en quelque sorte, que l'homme doit respecter s'il veut être heureux avec cette femme. Et le mythe, c'est que l'homme ne peut pas tenir, il veut absolument mettre le grappin sur tout ce qui touche à la femme, et il perce son secret, et à ce moment-là, elle apparaît coupée en deux, où le haut est un aspect de femme, et où le bas est c'est un être hybride. Le bas, c'est l'aspect d'une sirène, c'est-à-dire une queue de poisson. Selon les pays, c'est un oiseau, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un être hybride, c'est-à-dire un être mystérieux, incompréhensible, mélangé. Et ça, l'homme ne l'accepte pas. En fait, ça le choque. Mais du coup, dans le schéma qu'on a, Mélusine, la femme, disparaît en tant que femme. Elle n'est plus là, c'est fini. Il y a une deuxième série de... des mythes de, comme Mélusine, enfin de Mélusine, où ce n'est pas la femme qui disparaît, mais c'est l'homme. Et disparaît aux enfers, au paradis, ou dans le monde des esprits, le monde mystérieux, et c'est lui qui disparaît. Mais finalement, ça revient au même, quoi. La vie est impossible. Alors, comment, au Moyen-Âge, comment on parle de Mélusine? Alors, on a une chance, nous, c'est que, en fait, Mélusine, la fée Mélusine est arrivée véritablement dans la littérature au moment du XIIIe siècle, en Europe. En Europe, et, bon, parlons de l'Occitanie, vous voyez. Et le mot de fée n'existait pas avant, ni en occitan, ni en langage d'oeil, ni en latin. Et c'est au XIIe siècle qu'on voit apparaître ce mot, feu, et en latin, bon, peu importe. On commence à parler de fées, donc de ces êtres mystérieux. Et ça commence à sortir dans la littérature, différents romanciers. On a encore les manuscrits de 4 romanciers qui ont parlé de la fée Mélusine. Mais surtout, il se trouve qu'on a un gars qui s'appelle Jean d'Arras, là c'est au 14e siècle, mais enfin ça ne fait pas une grosse différence, 1300 et des poussières, un très grand romancier, et qui écrit un roman à la demande du duc de Berry. Le duc de Berry, je ne sais pas si vous vous en souvenez, certainement, vous avez entendu parler des riches heures du duc de Berry, ce livre fabuleux avec des enluminures, etc., qu'on peut aller admirer et voir au château de Chantilly, à côté de Paris. Enfin, un des chefs-d'œuvre du XIVe siècle. Et bref, le duc de Berry était très riche, extrêmement riche, frère du roi. Si vous vous en souvenez, lorsque Jean le Bon à Poitiers s'est pris une trempe avec les Anglais, qu'il a été fait prisonnier, le duc de Berry était avec lui et il est parti comme otage. Donc, vous voyez, très intime avec le roi de France, puisqu'ils étaient frangins, vous voyez. Et un mécène qui a dépensé un argent fou pour la culture, pour se mettre en avant et tout le reste. Or, le duc de Berry était d'une dynastie, une grande dynastie qu'on appelle les Lusignans. Les Lusignans sont une dynastie qui est autour de Poitiers principalement. Vous voyez, on pense d'ailleurs que le mot de Lusignan est venu du nom de Mélusine. Et Lusignan, Mélusine, c'est très lié. Bref, le duc de Berry demande à ce romancier, Jean d'Arras, d'écrire un livre à la gloire de la famille des Lusignans. Ça se faisait un peu à l'époque, une offensive de pub, en quelque sorte. Et on demande à un grand romancier, on sait qu'on a aussi des présidents de la République qui se font écrire des livres par des romanciers et qui les remercient après, pas forcément avec des euros, mais avec des bonnes places. Bref, passons sur l'actualité. Et donc, il demande à Jean d'Arras d'écrire un livre à la gloire des Lusignans. Il s'attaque à ça en ramassant tout ce qui a pu se dire sur l'histoire des Lusignans et évidemment sur la fée Mélusine, parce qu'il se trouve que la sœur du duc de Berry, Marie de France, est une femme de haut niveau culturel, etc. Et elle suggère, ou la suggestion est assez forte, disons, à Jean d'Arras, d'utiliser le mythe de Mélusine en disant c'est la femme qui dirige Lusignan, c'est la fée Mélusine qui a donné tout son poids, son honneur à l'histoire des Lusignans. Et Jean d'Arras donc va utiliser la fée Mélusine comme un filtre en quelque sorte, ou comme un spot, si vous voulez, qui éclaire toute l'histoire des Lusignans depuis les ancêtres, depuis le déluge, si on peut dire, quoi, jusqu'à l'époque du duc de Berry. Tellement d'ailleurs qu'on ne parlera pas de l'histoire des Lusignans, mais on parlera du livre de Roman d'Arras comme le roman de Mélusine. Oui. Et le duc de Berry, d'ailleurs, ça lui plaira pas trop parce qu'il n'est pas assez mis en avant. Et donc, il demandera à un nouveau gars quelques années après, il paiera ce qu'il faut, bien sûr, il s'en fiche, hein, d'écrire une nouvelle fois. l'histoire, manque de chance, le gars commencera à l'écrire, mais le duc de Berry mourra avant de voir le lire. Bref, Jean d'Arras sort son livre, 300 pages. Si vous avez envie de le lire, je vous le conseille, mais il faut s'accrocher, parce que, surtout si vous voulez le lire, le texte original, qui est en vieux français, c'est extrêmement poétique. Mais voilà, donc on a un lien très étroit entre Mélusine, la fée Mélusine, les contes de la fée Mélusine, et la littérature française, la littérature de la France de cette époque, occitane et française, à travers ce livre de Jean d'Arras, qui est encore, disons, étudié aujourd'hui, que vous pouvez aller dans, vous avez des tas d'éditions, tout le temps il y en a encore maintenant, on l'étudie, en littérature on l'étudie, etc. Voilà donc Mélusine, un mythe qui est extrêmement important, et à la fois dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire littéraire, disons, pour nous, française et occitane. On va s'arrêter quelques minutes de musique.
CFM.
Oh.
2022, Michel Bonnet. Donc, nous parlons de Mélusine. Alors, ce mythe de Mélusine qui a été mis en roman par différents romanciers au Moyen-Âge, mais il y en a un qui domine tout, donc Jean d'Arras, qui en 1390 et quelque chose, a sorti ce roman de 300 pages qui est absolument sensationnel, qui répète, il faut aimer la littérature du Moyen-Âge, bien sûr, hein, mais... Même encore aujourd'hui, il est édité en livre de poche, vous le trouverez, il est résumé par morceaux, etc. C'est intéressant. Et si on veut, je pense personnellement que si on veut rentrer dans l'atmosphère de l'Occitanie médiévale, il faut qu'on connaisse un peu le roman de Jean d'Arras et Mélusine. Je vous dirai un petit scoop, c'est que je suis en train de préparer une conférence sur Mélusine, justement, pour l'année prochaine, pour en parler beaucoup plus largement. Bref, laissons ça de côté. Nous, évidemment, nous essayons de rester en lien avec Raymond VII, parce que le but de ces émissions de CFM, CFM est très aimable et nous permet de parler du Moyen-Âge et de Raymond VII, et donc on continue notre offensive de publicité, en quelque sorte, pour le comte de Toulouse, pour dire du bien de lui. Alors, quel rapport il a avec Mélusine? Vous me direz, Mélusine, le roman d'Arras, de Jean d'Arras, a été écrit en 1390, donc 100 ans après la mort, largement 100 ans après la mort de Raymond VII. Est-ce que Raymond VII a connu Mélusine? Alors, de suite, je vous dis, oui, ça a eu une importance énorme, le mythe de Mélusine, pour comprendre Raymond VII. Pourquoi? Eh bien, parce que dans l'éducation des enfants de l'époque, comme nous aujourd'hui, on nous raconte des tas d'histoires. Quand on est tout petit, et Blanche-Neige, et les sept nains, et ceci, et cela. Enfin, bon, des chants, on apprend des danses. Bon, on se fait pénétrer et une fois, deux fois, trois fois. Et regardez les jeunes parents qui sont parmi vous. Quand ils ont des enfants, ça les dérange pas le soir avant de s'endormir de raconter tous les soirs la même histoire pendant des semaines et des semaines, hein, parce qu'ils aiment ça, quoi. Et ils sont pétris petit à petit, ils deviennent amis avec cette fée, avec cette sorcière, avec tout ça, et puis ils imaginent le monde à leur façon. Donc Raymond VII, autant de Raymond VII, et Raymond VII lui-même, dans l'éducation qu'il a reçue, a été en quelque sorte formaté pour comprendre, pour savourer, pour se rappeler les contes de fées de l'époque, Mélusine, qui est une façon de s'apprendre à respecter la femme, à avoir de la courtoisie pour les gens qui sont autour de nous. Bref, ça fait partie de l'éducation. Or, si vous vous en souvenez, on en a déjà parlé, je répète 36 fois la même chose, mais c'est pas grave. Raymond VII, quand il était enfant, a eu un énorme problème, c'est qu'à 2 ans, sa maman est morte. Il ne l'a donc pas connue. Et il a été éduqué, son père a confié son éducation à Geoffroy de Poitiers, qui était un lettré. Donc un gars qui lisait tous les romans de l'époque, qui les connaissait, qui fricotait avec les intellectuels, etc. etc. Et qui était sans doute assez doué pour raconter, ou faire raconter, ou faire écouter à Raymond VII tous les contes de l'époque, dont Mélusine. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que Raymond VII, le problème numéro un qu'il avait avec sa mère, c'est qu'il pouvait... Il se sentait abandonné. Il s'était senti abandonné par sa mère. Et ça, c'est pas un bon point pour la maman. Mais pourquoi elle m'a abandonné? Et Geoffroy de Poitiers essayait par tous les moyens de lui dire « Ta maman, c'était super, c'est la meilleure, etc. » Mais il disait « Mais elle m'a abandonné. » Et petit à petit, tout doucement, il est amené à voir que la richesse, le bonheur de Mélusine, c'était finalement la richesse, le bonheur qu'avait apporté Jeanne à Raymond VI, son père. Et il s'aperçoit que si Mélusine a disparu subitement, c'est parce que son mari n'avait pas été sérieux avec elle, n'avait pas respecté sa dignité de femme, son secret, etc. Et lui, il s'aperçoit qu'avec sa mère, c'est la même chose. Sa mère a quitté et a abandonné, jusqu'à abandonner son fils, parce qu'elle a vu que Raymond VI ne respectait pas sa dignité de femme. Et elle a dit, bon, si c'est ça, je disparais. Et donc, il a fait petit à petit, il a compris que son abandon par sa mère était finalement pas quelque chose de négatif, une erreur, une faute, etc. Mais comme Mélusine, c'était la revendication d'une dignité de la femme. Et évidemment, avec l'éducation qu'il recevait, il en a fait un élément positif. Ça lui a permis de voir avec des yeux nouveaux sa mère, de la respecter encore davantage, de l'aimer davantage et de la prendre un peu comme une sorte de maîtresse de sa vie, quoi, en quelque sorte, vous voyez, d'image qui regarde sa vie. Et il faut évidemment se rappeler que ça se passe dans le monde du milieu comtal, du milieu de la cour comtale, de la cour aussi des rois d'Angleterre Plantagenet, c'est-à-dire ce milieu qui est marqué par les troubadours, qui est marqué par l'aristocratie de l'époque, par ces femmes dont on rêvait, qu'on chantait, etc. Et donc, il met ça en relation avec toute cette courtoisie qui est basée sur le désir de la femme, mais où la femme a le dernier mot. La femme est d'accord. C'est le propre de l'amour courtois, du fin amour, de toute cette civilisation occitane qui après a disparu malheureusement, enfin plus ou moins. Mais c'est le propre, c'est que on est fou de désir sexuel, faut pas rêver, hein, et vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de la dame, on l'exprime le mieux possible, mais de façon à conquérir cette femme, parce que le but c'est de la conquérir. Mais il est l'éducation fait que, l'éducation et la vie sociale, etc., fait que on accepte que ce soit la femme qui se donne ou pas. Et non pas la prise, le viol, disons pour aller vite, la violence de tant de seigneurs, tant d'hommes vis-à-vis de leur épouse à cette époque-là. Et donc, il est pris dans cette ambiance et ça va être... Ça va le marquer, quoi, bien sûr, pour tout le reste de sa vie. C'est-à-dire que cette fierté qu'il a vis-à-vis de sa mère, elle est liée à ce mythe très profond de Mélusine qu'il va rencontrer en beaucoup d'endroits. Et en particulier, il y a un aspect qu'on oublie, parce qu'il faut descendre dans les méandres de la vie de Raymond VII, mais il se trouve que au moment où Jeanne est venue en rentrant de Jérusalem pour rentrer chez elle en Angleterre, elle a traversé le Rhône à Beaucaire, elle a été accueillie par Raymond VI, le père de Raymond VII, et là il est tombé amoureux. Hein. Bon, il courait tous les jupons qui passaient, donc un de plus, un de moins, c'était très bien. Hein. Mais ça s'est trouvé qu'elle a trouvé ça assez sympa aussi. Et elle est partie, donc il l'a accompagnée jusqu'en Angleterre pour discuter avec Richard, qui était le roi d'Angleterre, le frère de Jeanne, et lui dire, moi je suis prêt à me marier avec elle, on pourrait faire une entente, l'Angleterre et le comté de Toulouse et sa femme. Mais il était marié déjà, Raymond VI, il avait une femme, il faut qu'il divorce. Il divorce, c'est pas un problème, ça se fait rapidement. Or cette femme, c'était une Lusignan, bourguigne. Elle s'appelait Bourguigne, c'était une des grandes dames de la famille des Lusignan. Donc il est lié par ça, déjà, aux Lusignan, et à l'histoire des Lusignan, aux rapports, etc., etc. Et un autre point qui n'est pas, comment dirais-je, quand on veut rentrer dans la vie intime des gens, c'est que lorsque, après le traité de Paris, et que ça s'est très mal passé pour le comté de Toulouse, enfin, de certains aspects, ça s'est bien passé puisque Raymond a été reconnu comte et le comté de Toulouse aussi. L'avenir, c'était que le comté de Toulouse passait entre les mains du roi de France. Hein, et ça, c'était gênant, c'était embêtant. Et il essayait, Raymond VII essayait de lutter contre ça. Et pour ça, il lui fallait un héritier. Et sa femme, Santi d'Aragon, ne pouvant pas lui donner un héritier, il avait décidé d'en chercher, évidemment, de changer d'épouse. Et il s'est marié avec qui ? Avec une Lusignan, Isabelle d'Angoulême, qui était aussi de la dynastie des Lusignan. Donc vous voyez qu'il y a à l'intérieur de, disons, de la vie culturelle, de la vie habituelle, de la pensée, disons, cet homme, ce Raymond VII, au long de sa vie, il y a des relations avec, tout ce monde qui est lié au Plantagenet et toute cette dynastie des Lusignans autour de Poitiers. Voilà. Donc, c'est pas du tout étonnant qu'il soit intéressé par les Lusignans et Mélusine. Vous voyez qu'on n'est pas complètement en dehors de l'histoire et dans la pure imagination. En attendant, on va faire quelques minutes de musique. Raymond VII, dans sa vie, avait découvert le mythe de Mélusine à travers l'éducation qu'il avait reçue, que ça l'avait aidé énormément à voir sa mère d'un jour nouveau, découvrir que l'être profond de sa mère, c'était le respect de sa dignité, intraitable sur le respect de sa dignité de deux femmes, son secret, si on peut dire. Et donc, ça a rejailli sur toute la vie de Raymond VII et dans ses rapports avec les femmes. Et à travers ce mythe de Mélusine, si vous avez le temps de lire Mélusine ou de lire des études sur Mélusine, vous y trouverez certainement du plaisir. On se retrouve au cœur de la culture et de la vie occitane. D'une part, un premier point, c'est que Mélusine est au cœur de ce qu'on appelle le monde courtois, au sens où c'est la femme et qui est au sommet de ce monde qu'on appelle le finamor, la courtoisie des seigneurs occitans de cette époque. La particularité qui est là, c'est que dans cette vie des hommes à l'intérieur des châteaux ou des petits villages, peu importe si les seigneurs étaient des grands seigneurs ou des petits seigneurs qui se serraient la ceinture un peu tous les matins, hein, parce que la vie était dure, mais leur tension vers la femme les amenait à désirer fortement la femme, mais à s'arrêter, à ne pas s'imposer par la violence et à accepter que ce soit la femme qui décide, oui, tu me plais ou tu me plais pas, enfin, jusqu'à quel point, peu importe. Et donc, on est là avec la même Mélusine, la fée Mélusine, sur un mythe qui est profondément ancré dans la culture occitane et dans la courtoisie, qui se résume par la courtoisie, par la place que cette culture occitane donne à la femme, je dirais en quelque sorte, au sommet de la pyramide sociale, pyramide qui est à moitié féodale et à moitié courtoise dans le monde de la femme. Ça, c'est un premier point qui nous montre à quel point la femme est importante en Occitanie à cette époque-là. Le deuxième point qu'on a évoqué un jour, c'est que vous vous souvenez qu'en 1215, il y a eu le concile de Latran, que Raymond VII n'était pas encore Raymond VII, le petit Raimundet a été déshérité par le concile et il s'est retrouvé sans rien. Simplement avec les terres qui appartenaient à sa mère et dont il a reçu la charge. Et ça, ça l'a boosté. Il a décidé de se rebeller, de se battre. Et il a été très bien accueilli en Provence. Et il a commencé par le cœur de la dynastie des Raymond et de relations avec sa mère, là où il était né, là où sa mère l'avait mis au monde, par Beaucaire, où il a attaqué. Donc, il s'est battu avec Raymond, avec Simon de Montfort, pour Beaucaire. Or, là, il s'est fait enfermer dans Beaucaire, et vous savez que Simon de Montfort est obligé de baisser les pouces et de faire un accord, un traité pour reconnaître sa défaite, en quelque sorte, et reconnaître que Raymond VII, le petit Raymondette, était le patron de Beaucaire et que désormais, il n'y toucherait pas. Voilà. Mais ce qui a eu d'important dans cette histoire-là, c'est plus que la victoire du jeune Raymond sur Simon de Montfort, c'est le fait que Raymondette a passé 6 mois complètement enfermé dans les murailles de Beaucaire, sans pouvoir sortir de là. C'est-à-dire dans un milieu populaire, on dirait ici la superficie de la cité de Cordes, hein, c'est pas grand, et 6 mois sans sortir de la porte des Ormeaux, sauf pour se cogner peut-être un peu à 3 coups d'épée avec Simon de Montfort, mais la vie de tous les jours. Et vous voyez de suite qu'est-ce que ça veut dire. C'est une promiscuité entre les chevaliers, mais avec tout le monde, parce qu'on est les uns sur les autres, c'est tout petit, on rencontre tout le monde. En plus, on n'est pas dans des maisons en pierre de taille comme les maisons de Cordes, on est la moitié des maisons sont en tortillis ou en roseaux, en branchages, on sait tout ce qui se passe dans les maisons, on les voit, on les écoute, dans les rues, tout le monde est les uns sur les autres, et du matin au soir, bon, on se drague, évidemment, c'est évident, surtout quand on a un jeune futur compte comme Raymondette, il a dû faire rêver pas mal de jouvencelles à cette époque-là, quoi. Et donc, lui, ce qu'il y a, c'est qu'il a découvert cette vie populaire qu'il ne connaissait pas du tout. Et il a vu la place de la femme dans ce milieu populaire. La femme qui était extrêmement importante, parce que nous, aujourd'hui, quand on parle de travail, on en parle d'un point de vue individuel. La qualification professionnelle, c'est lié à un individu. C'est moi, je suis maçon, moi je suis peintre, moi je suis spécialiste en informatique ou en radio ou ceci, cela. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, ça va changer à partir du Moyen-Âge. Le travail, c'était une entreprise de famille. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ensemble, travaillaient. Ils étaient boulangers ensemble, ils étaient tisserands ensemble. Et les enfants aussi, les enfants travaillaient avec les parents, étaient éduqués par le travail et par donc le, en voyant travailler le papa et la maman, sans compter qu'il y avait souvent, quand il y avait un métier qui était un peu plus solide que les autres, un peu mieux présenté que les autres, il y avait souvent des apprentis qui venaient pour devenir compagnons du maçon, du charpentier, etc. Et les femmes étaient, en ce sens-là, à égalité. On voit, par exemple, dans le milieu de la boulangerie, sur les villages ou les cités comme Montauban, Toulouse, Albi, etc., il y a des femmes qui tenaient la boulangerie, c'est-à-dire qui, tout à partir des relations avec le moulin pour acheter la farine jusqu'à la vente du pain. Vous voyez, donc, les femmes avaient une place extrêmement importante, elles étaient prises au sérieux. Elles avaient, enfin, des tas de choses que dans le droit occitan, le droit romain, le droit français, etc., que les spécialistes étudient, on va pas s'occuper de ça. Simplement de dire que il découvre, lui, Raymond VII, que la place de la femme qu'il croyait particulière au monde courtois, elle est vécue d'une autre façon, mais elle est vécue aussi dans le monde populaire. Et donc, c'est que toutes les femmes, pour lui, ça lui dit que toutes les femmes doivent être au centre, on doit les respecter, on doit les écouter, on doit leur donner leur place. Vous voyez ? Et cette attitude-là est totalement opposée à celle de l'Église à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver complètement mis du côté des hérétiques, parce que face à l'Église, l'Église ne peut pas accepter qu'il y ait une partie de l'individu qui échappe à la mainmise de l'Église. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mais quand on regarde la femme, qu'on la respecte parce qu'on la considère un peu comme un être hybride, au sens où tout ce qui touche à la nourriture, à la relation sociale, au travail, etc., tout ce qui est au-dessus du nombril de la femme, hein, tout ça c'est la vie sociale, homme et femme, on est pareil. Mais dès qu'on descend, qu'on va dans le ventre, dans le ventre de la femme, on est là dans un domaine mystérieux, parce qu'on ne sait pas, au Moyen-Âge, on n'a pas les études qu'on a faites aujourd'hui, on ne sait pas comment les femmes font pour fabriquer un bonhomme. Comment elles font dans leur corps pour prendre de la chair, du sang, des os, de la peau, mettre un mouvement là-dedans, une âme, et en sortir un garçon ou une fille qui... grâce à ça, continue l'histoire de la famille, continue l'histoire de l'humanité. Et là, c'est un mystère et, qui, pour certains, fait peur, pour d'autres, fait plaisir, pour d'autres, donne envie d'étudier, etc. Mais, du point de vue de l'Église, le problème, c'est que ce mystère-là, il est lié au sexe, évidemment. Or, pour l'Église, tout ce qui est sexuel, c'est gênant, c'est dangereux, ça empêche d'aller vers le spirituel, vers de rejoindre Dieu, et toutes les histoires qu'on a, c'est Satan se sert du sexe et Satan se sert de la femme pour lutter contre Dieu. Donc l'Église est obligée de lutter contre ce pouvoir de la femme, et on va se retrouver avec cette attitude de l'Église vis-à-vis des hérétiques, où l'Église va chercher, dès qu'elle va voir une femme, est-ce qu'elle n'est pas hérétique ? Ou qu'est-ce qui, dans sa vie, pourrait montrer qu'elle est hérétique ? Or, comme dans l'Occitanie, on donne une place extrêmement importante aux femmes, qu'il y a une convivialité, une bonne entente, du franc-parler, etc., entre les hommes et les femmes, l'Église va être obligée, on va se sentir obligée de lutter contre cela, et on va se retrouver avec cette croisade des Albigeois, avec ce monde des hérésies, on en reparlera bien sûr, mais vous voyez de suite que la femme est un élément incontournable, toujours bien sûr, mais si on veut étudier le Moyen-Âge, et en particulier l'Occitanie, il faut regarder de près comment elles vivaient, comment elles étaient regardées à cette époque-là par les seigneurs, par les comtes, par les rois et évidemment par l'Église, les évêques et le pape. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Vous voyez qu'avec Mélusine, on est parti dans tout un monde un peu particulier. Je vous dis à la prochaine fois. Merci de votre écoute. C'était Corde 2022, Michel Bonnet. He left my throat, I hope he'll come back.
I see myself acting, the heroes in my mouth. The air me is too heavy and it cracks the batteries. How could I say that my spirit is an impregnable fortress? Deedless loners learn to be silent. Lay the thing hunger engine does violence. The desert doesn't preserve. Good maidens at your call is laughing in this herd. So some churl and ring, but I'm sleeping on this grave. He left my throat, I hope he'll come back to wake me up one day. Then no hyenas, that was with whom you speak, each word to its state, species of the limb between the teeth. When they're smiling, when they're smiling, when they're smiling. So some trill and ring, but I keep it in my chest. To the desert me in silence, we finally at rest. We finally at
Dans le Tarn, la vie des pays, CFM.